Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Nouvel épisode en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie dans le cadre de sa démarche de COP21 locale. La COP21, vous vous souvenez ? L'accord de Paris sur le climat. L'idée, c'est de décliner ce processus au niveau local, mobiliser tous les acteurs du territoire autour d'objectifs et d'engagements afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter aux changements désormais inéluctables. Mon invitée, cette semaine, Catherine Tardif, est médecin et c'est avec son expertise que nous conversons autour du triptyque climat, santé, pollution de l'air. Conversation en plein air, évidemment, accompagnée de chants d'oiseaux. Tiens, qui pourrait nous faire la liste des oiseaux qui ont posé leurs airs en fond sonore de nos mots ? En tout cas, avec Catherine, nous évoquons les inégalités croissantes en matière de pollutions atmosphériques, la hausse de certaines maladies dans les villes de 2050, mais aussi de solutions pour que la situation soit, comment dire, moins pire. Catherine voudrait que d'ici là, d'ici 2050, le droit à un air potable soit reconnu, tout comme le droit à l'eau potable existe aujourd'hui. Le futur commence ici et maintenant.
Catherine, bonjour.
Bonjour.
Tu es une jeune médecin retraitée. Je dis dans cet ordre-là.
Une jeune retraitée médecin, oui, voilà. oui. Exactement.
Et tu as choisi de m'emmener dans un endroit de Rouen que je ne connaissais pas. Donc j'ai découvert en venant. Est-ce que tu peux me le décrire, me le présenter cet endroit ?
Tout à fait. Alors, d'une part, c'est un des petits espaces verts. Je dis petit parce que dans Rouen, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est intéressant de connaître les espaces verts de la ville de Rouen. Donc, ça, c'est le premier point. Ce que je n'ai su que tout récemment, c'est qu'il y avait un jardin partagé.
Oui, il est au fond.
Dans un coin de ce jardin, ce qui est aussi un point extrêmement important dans la thématique qu'on va peut-être discuter. Premier point. Et deuxième point, il est situé à côté d'une zone d'assez grand trafic, oui. Puisqu'il est tout près des quais, un petit peu en contrebas.
Peut-être que vous entendez d'ailleurs le bruissement de fond, c'est la circulation sur les quais.
Et comme le trafic génère de la pollution atmosphérique, eh bien, il se trouve qu'il y a une station de mesure des polluants atmosphériques qui a été installée par Atmo Normandie, et qui mesure les polluants qui réglementairement doivent être suivis, surveillés. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là, parce qu'il allie à la fois une source de pollution atmosphérique qui n'est pas très loin, mais aussi un espace qui permet peut-être de s'en protéger, ou en tout cas d'améliorer la qualité de vie des habitants.
Ouais, très bien, un îlot aussi de fraîcheur.
Et donc, ces îlots de fraîcheur, ils vont être très importants à développer, dans le réchauffement climatique qui arrive, et peut-être qu'aujourd'hui on en est le témoin.
Oui, c'est vrai. Alors, il paraît qu'un orage va arriver, donc pour l'instant on est bien, il y a un peu d'air, il fait une trentaine de degrés, mais on est plutôt pas mal. Et justement, projetons-nous dès maintenant, Catherine, en 2050, santé et pollution de l'air en particulier, ce sont des enjeux extrêmement importants au présent. Je regardais que l'Organisation mondiale de la santé a sorti début mai un rapport très important sur les décès liés aux polluants atmosphériques et notamment aux particules fines. En 2016, on avait 6,5 millions à l'échelle planétaire de morts prématurées. Et sur 2017, on est passé à 7 millions. 2050, qu'est-ce que tu entrevois ?
Eh bien, des mauvaises choses probablement pour certains continents qui vont avoir vraiment du mal à lutter contre ça. Et puis, on peut espérer de meilleures choses quand même à l'échelle de l'Europe. Et quand on regarde la carte des zones qui sont touchées de façon très dure par la pollution, la carte mondiale, eh bien on voit que les seules zones préservées, enfin moins touchées, c'est l'Europe et les deux continents américains, le sud, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et tout le reste, c'est une vraie catastrophe du moment que les gens habitent dans les villes et les villes se développent à une vitesse très, très importante.
Oui, en 2050, on sait que c'est 75% de la population.
L'Asie du Sud-Est, l'Extrême-Orient et l'Afrique sont vraiment très touchés par la pollution atmosphérique. Donc c'est peut-être ces régions-là qui vont avoir le plus de mal à se libérer. Et donc à l'échelle de la planète, 2050, pour elles, je suis un petit peu inquiète.
Alors tu le disais, la cartographie montre qu'en Europe, la situation est meilleure qu'ailleurs. J'aurais presque envie de dire moins pire.
C'est plutôt ça.
Les autorités européennes ont, à plusieurs reprises, et encore tout récemment, menacé d'emmener la France devant le Conseil européen.
Le Conseil de justice européen.
Voilà, le Conseil de justice européen pour non-respect de ces normes. Voilà.
Et d'ailleurs, à Rouen, eh bien, on peut être effectivement critiqué puisque les stations de trafic, comme celle à côté de laquelle on se trouve, mesurent des taux excessifs de NO2, le dioxyde d'azote. Et qu'en plein été, eh bien, les critères de qualité pour la mesure de l'ozone ne sont pas réalisés. On ne les a pas. Sinon, à l'échelle de l'Europe, c'est plutôt les pays de l'Est, comme la Pologne, ça j'en suis sûre, la Hongrie peut-être, qui sont extrêmement touchés, probablement à cause de leur activité industrielle un peu ancienne qui perdure.
Alors dans ce 2050 que tu commençais à décrire, tu disais certaines parties du monde, l'Asie, le continent africain qui seront fortement exposés, mais ça voudra, et puis même pour nous, ça voudra dire quoi d'être confronté à ces pollutions, c'est plus de maladies. Peut-être que toi, dans ta carrière, tu as rencontré plus de cas de, je sais pas, d'asthme, de choses comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra que la technique nous sauve parce qu'on portera tous des masques?
Alors, moi, pas vraiment personnellement, mais on le sait que, par exemple, l'incidence de l'asthme augmente. Alors, à l'échelle de la France, il y a, on va dire, 20 ans, c'était 6% de la population qui souffre d'une maladie asthmatique. À l'heure actuelle, c'est 10%. Hein? Bon, alors maintenant, il y a plein de facteurs, mais on peut évoquer celui de la pollution atmosphérique parmi ces facteurs. Et donc, pour ces continents, ça sera sûrement plus d'asthme. Et tout à l'heure, on pourra évoquer les problèmes du climat, parce que ça interfère. Plus d'asthme, plus de tout ce qui est décrit en termes de retentissement sur la santé, donc plus de décompensation, des maladies respiratoires chroniques, des maladies cardiaques chroniques, et puis maintenant on le sait depuis peu, les troubles métaboliques, les problèmes de fertilité, les problèmes de prématurité, les problèmes probablement de développement cérébral, on va dire ça comme ça.
Donc alors c'est un futur loin d'être réjouissant. Dans ce futur-là, est-ce que en 2050, il va falloir attendre d'arriver là pour que chaque personne ait conscience de tout ça? Parce que les morts du fait de la pollution atmosphérique, enfin, on ne la voit pas arriver, cette mort-là.
Et on ne voit pas la maladie. Elle n'existe pas. La maladie liée à la pollution atmosphérique, elle n'existe pas. C'est un facteur de risque parmi d'autres, et c'est un facteur pour abréger la vie. Donc c'est des morts prématurées. C'est comme ça que c'est le plus facile de le dire, pour être exact. Malgré tout, je pense qu'on a beaucoup de mal à notre échelle de mesurer bien l'impact en termes de fertilité, de prématurité ou de maladies métaboliques. Mais là, les études épidémiologiques sont vraiment importantes.
Alors, tu disais qu'il y a des interconnexions ou des facteurs aggravants liés au réchauffement climatique. On sait que, pour prendre l'exemple de la Normandie, par exemple, ou de la France, on va avoir des périodes de canicule plus courante, moins de pluie, mais sur des épisodes plus resserrés, plus denses. Les villes, il va falloir lutter contre les îlots de chaleur qui concentrent, j'imagine, aussi toutes ces pollutions. On voit déjà aujourd'hui parfois des images de Pékin recouvertes d'une espèce de brouillard de pollution. À quoi ressembleront nos villes dans ces cas-là?
Moi, je vais revenir sur le thème de la santé. Les modifications climatiques, elles vont avoir un impact. D'abord, les épisodes de canicule, on a déjà une expérience en 2003, vont favoriser les décompensations des maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, vont augmenter la mortalité. Ça, c'est possible. À l'inverse, s'il y a des périodes de très grand froid, là aussi, c'est source de troubles de la santé et éventuellement d'une mortalité. Toujours sur les intempéries, s'il y a des grandes périodes d'inondation, bien groupées, plus d'humidité, eh bien, on va avoir des développements de moisissures, par exemple, de champignons. Et là, sur la santé respiratoire, il y a un impact, parce que ça va provoquer plus d'asthme, plus de cette maladie qu'on appelle la BPCO, plus d'exacerbation, plus de maladies pulmonaires. Les moisissures, c'est un souci. Ensuite, il va y avoir plus d'orages. Voilà. Les orages, eh bien, il y a un phénomène qui a été décrit relativement récemment, par des Australiens. C'est que quand il y a un gros orage, alors qu'on est en période pollinique, par exemple en ce moment, eh bien, l'électricité dans l'air va disperser le pollen de façon extrêmement intense, beaucoup plus intense que quand on se promène et qu'il y a un petit coup de vent. Ils ont décrit en Australie des épidémies d'asthme aigu grave arrivant dans les urgences, mobilisant complètement les urgences et responsable de décès.
D'accord.
Donc les orages polliniques, c'est vraiment lié, probablement, on peut le mettre en rapport avec le réchauffement climatique. Après, on a les problèmes, justement, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe, de ces mares et de ces parasites qui vont se développer. Bon, ça, tout le monde a entendu parler de la dengue, du chikungunya, du Zika. Il est possible que ça puisse arriver chez nous si on ne fait pas attention et s'il y a de l'eau qui stagne. Donc, on est un petit peu loin de la pollution, mais c'est une vraie vérité, un fait dont on peut s'inquiéter.
Alors, toujours sous l'angle de la santé, évidemment, mais peut-être évoquer le système de santé. C'est vrai que le système de santé français est reconnu mondialement pour l'importance qu'il a dans la société. Si on a ces maladies chroniques qui sont de plus en plus fréquentes, répandues, avec des pics plus réguliers liés aux facteurs aggravants qui peuvent être le climat, etc., à l'échelle de 30 ans, ça peut aussi poser beaucoup de questions sur la survie d'un système de santé. Alors, d'un survie, le mot était peut-être
Oui, peut-être. Alors, malgré tout, on sait, ça a été chiffré en 2015, que pour la France, tout ce qui est imputable en termes de santé lié à la pollution atmosphérique, c'est un coût extrêmement important. Si je me souviens bien, il y a une fourchette par an de 1,3 à 1,8 milliard de dépenses de santé excessives liées à la pollution. Alors la France y fait face, plus ou moins facilement, on connaît les difficultés. Comment ils font face les autres pays, ça sera un vrai problème.
Ça va être un vrai sujet. Alors comment, si on refait le chemin dans le temps jusqu'en 2018, on a ici une station de mesure des polluants. C'est bien d'avoir la station pour connaître l'état des lieux au jour le jour. Comment on fait pour qu'en 2050, cette métropole et la ville et ses lieux en proximité des axes de circulation, là il y a juste une école qui est juste là, les immeubles d'habitation, comment on fait pour changer la donne, pour se prémunir?
Donc il faut revenir à la source de la pollution. On peut déjà écarter, il y a eu énormément d'améliorations sur les sources industrielles de la pollution. Quand on trace le dioxyde de soufre, le SO2, on sait que maintenant on est rentré dans les critères préconisés, en tout cas à l'échelle de l'Europe, probablement parce que d'une part les industriels ont fait attention à la qualité des carburants qu'ils utilisaient, et puis aussi par malchance probablement au déclin de l'industrie sur la métropole. Donc les deux facteurs font que la pollution au SO2, c'est plus vraiment un souci. Il reste la pollution aux particules, dans ce que l'on mesure, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne mesure pas forcément. Mais la pollution aux particules fines, on ne mesure pas très bien les particules ultra fines, et puis la pollution au dioxyde d'azote. Là, on a deux sources d'émissions. D'une part, tout ce qui va être le chauffage urbain ou non urbain, Et ce qui se passe en milieu agricole également, qui va se déplacer. Donc le fait d'abandonner le chauffage aux énergies fossiles, oui, ça sera une amélioration importante, que ce soit pour les habitants ou pour que ce soit pour eh bien, justement les écoles, les hôpitaux, les administrations. Mm-hmm. Tout ça, c'est extrêmement important. La deuxième source de pollution, pour les particules et pour le dioxyde d'azote, eh bien, c'est le trafic. Mm. C'est non seulement les émissions des moteurs et des moteurs diesel, tout le monde en a entendu parler, mm-hmm, hein, sur le tournant 2017-2018, tout le monde est au courant, mais également l'abrasion des routes. Mm. Hein, les pneus, les freins, le bitume, tout ça, ça se dégrade et ça émet des particules. Mm-hmm. Et donc, il va falloir aussi raisonner en termes de mobilité pour pouvoir lutter contre cette pollution.
Ouais. Et alors, c'est intéressant cet aspect auquel je ne pensais pas, d'abrasion de la route, et avec aussi ces phénomènes d'orage, de ruissellement depuis les routes. Alors, je sais qu'il y a souvent des bassins de rétention au bord des grandes infrastructures routières, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a aussi ces particules, j'imagine, qui s'infiltrent, peuvent s'infiltrer dans les terres.
Après, c'est quelque chose que je connais moins bien, mais effectivement, les terres peuvent être polluées. Et c'est éventuellement toute la problématique de la pollution par les métaux lourds.
Mmh. Hein, oui, tout à fait.
Que ce soit par des retombées des cheminées ou que ce soit par les émissions diesel.
Ouais. Alors, sur justement nos changements de mobilité pour limiter ces émissions, parce que c'est peut-être cette source-là qui est la plus facile, sur laquelle il est le plus facile d'agir en tant qu'individu. Est-ce que tu imagines qu'en 2050, le fait que nous soyons tous passés à des voitures autonomes et partagées sera plutôt la solution? Tu vois plutôt tout le monde à vélo. Tu me disais tout à l'heure que tu te déplaces beaucoup à vélo.
Autonome, véhicule autonome, je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien, parce que tout dépend de son carburant, et puis donc il interviendra aussi sur les revêtements et sur l'usure des pneumatiques et de ses freins, obligatoirement. L'autre hypothèse, c'était...
De passer aux mobilités douces, mais...
Voilà, dans la mesure du possible, parce que, attention, tout le monde ne peut pas traverser la ville à pied ou bien utiliser un vélo. Selon les jours, on peut, selon les jours, on ne peut pas aussi. Mm-hmm. C'est vrai que de diminuer les transports en voiture particulière, ça sera toujours bénéfique.
Hein. Ouais, ça sera bénéfique, et comme tu dis, tout le monde ne peut pas le faire. Je pense qu'on a eu une politique d'aménagement du territoire depuis des dizaines d'années qui a favorisé l'étalement urbain, énormément de personnes, et ce n'est pas celles qui ont le plus de moyens, bien souvent habitent très loin de leur lieu de travail. Donc on a une dépendance à la voiture, donc une dépendance finalement à l'émission de ces particules. C'est totalement un modèle de vie qu'il va falloir repenser.
Après, il n'y a pas une solution, il y a plein de petites solutions, et ça sera à chacun de mélanger toutes les petites solutions. Les gens qui peuvent rester chez eux en télétravail, les gens qui peuvent faire du covoiturage, les gens qui pourront prendre un transport en commun, tout ça, ça sera bénéfique. Hein.
Mm-hmm.
Y a autre chose éventuellement que je viens juste seulement d'y penser, c'est que selon les horaires de la journée, le niveau de pollution n'est pas le même.
Mm-hmm.
Et donc le matin ou le soir, il va y avoir plus de pollution, NO2 et particules fines. Peut-être que de décaler aussi ces trajets, ça peut faire partie, mais c'est quand même pas ça le principal.
Ouais.
Le principal, c'est de transport douce et moins de voitures.
Mmh. Ouais.
Donc transport en commun, et puis tout ce qui s'appelle la plurimodalité, c'est-à-dire je pars d'un endroit en voiture, je laisse ma voiture, je prends le train et arrivé à la gare, j'ai un vélo, par exemple.
Ouais. 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 Et puis sur l'aspect chauffage, là c'est plus du ressort... soit de collectivités, soit de bailleurs, qu'ils soient sociaux ou pas. Et là, on sait que le coût de la rénovation énergétique des logements existants est extrêmement important, et c'est un plan sur sur des dizaines d'années, donc dans 30 ans.
Malgré tout, c'est extrêmement rentable à long terme. Oui. C'est ce que j'ai compris. Hein. Moi, je ne connais pas les valeurs chiffrées, ce n'est pas tout à fait ma mathématique, mais à long terme, c'est très important. Si j'ai bien compris, grâce à ces actions-là, on ne va pas trop augmenter notre consommation d'électricité. Mmh. Elle va peut-être soit rester stable, soit éventuellement décliner grâce à toutes ces mesures-là. Mmh. Donc c'est un point vraiment, vraiment important.
Ouais. Est-ce que dans la ville, en 2050, il sera encore possible de pratiquer des activités sportives de plein air? Je pense à tous les coureurs qui, dans toutes les villes où il y a un fleuve, autour des fleuves, il y a des grands axes de circulation, et puis il y a des petits cheminements piétonniers pour que les gens puissent courir, faire du roller, etc.
Alors, d'abord, un premier point, on va dire d'ordre de santé, d'ordre médical, c'est que de toute façon, même s'il y a de la pollution, d'avoir une activité physique et sportive, c'est bénéfique pour la santé. Mmh. Il y a pas mal d'études, hein. Les gens se posent des questions, mais il y a pas mal d'études qui arrivent à cette conclusion-là. C'est que finalement, il vaut mieux aller courir avec un peu de pollution que de rester sédentaire. Mmh. D'autant que si on reste sédentaire, on est dans son bureau ou dans sa maison, et là, c'est pas notre sujet, mais la pollution du milieu intérieur, là, c'est extrêmement important aussi.
L'étude de l'OMS, justement, donnait des chiffres aussi sur la part des décès prématurés liés à la pollution de l'air intérieur. Alors, c'est un peu en baisse, a priori, mais ça reste énorme.
Ça reste 7 millions, ça reste très important. C'est pour ça, par exemple, que les consignes, à l'heure actuelle, s'il y a un pic de pollution, disent « n'enfermez pas les enfants, faites-le courir dehors, de toute façon, ça sera tout aussi bien. » Hormis la pollution à l'ozone, comme il est tout à fait possible qu'on en ait une en ce moment, parce que alors là, elle est dans à l'extérieur. Mmh. Elle ne va pas être à la maison ou dans les bureaux, puisqu'on passe un temps incroyable dans nos bureaux.
Alors ici, sur la métropole Rouen-Normandie, il y a une démarche que tu as rejoint qui s'appelle la COP21 locale, alors que tu as rejoint justement. Dis-moi à quel niveau que tu suis,
dont je suis les activités, c'est tout. Il y a 15 jours, 3 semaines, je sais, oui, 3 semaines peut-être, j'ai quasiment l'honneur de siéger au conseil d'administration d'Atmo Normandie. Mm-hmm. Après l'Assemblée Générale, on a eu une visite assez détaillée de l'atelier de la COP21. Et j'y étais passée déjà au moment de son inauguration. Parce que la démarche, on va dire, éducative, ou la démarche, je transmets des informations, moi, je crois que c'est capital. Mm-hmm. Voilà, mais je n'ai pas d'investissement supérieur à celui-là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment important.
Et pour toi, à l'échelle d'un territoire comme celui-ci, que tu connais bien, qu'est-ce que tu attends justement de cet accord sur le climat, sur les thématiques de santé et de pollution? Qu'est-ce que tu aimerais voir qui permettent de changer les choses? Alors, l'accord devrait être signé en fin d'année, donc mis en œuvre à partir de 2019.
Alors, il faut agir au niveau de la pollution atmosphérique. Là, on a un point qui est relativement favorable, c'est que maintenant, le déclenchement d'une procédure d'alerte à la pollution va se faire au bout de 48 heures d'un taux élevé et non plus au bout de 48 heures. Hein, avant, il y a deux procédures. Il y a la procédure d'information et ensuite il y a la procédure d'alerte. Quand il y avait 4 jours de procédure information à la population, donc sur un taux modérément élevé, déjà trop élevé, hein, il fallait attendre le 4e jour pour qu'il y ait une alerte à l'ensemble de la population. Oui. Là maintenant, ça va être 48 heures. Mm-hmm. Ça, c'est un point important. Seulement, il faut que ça soit suivi des faits. Mm-hmm. Un questionnement, c'est réduisez votre vitesse de 20 km/h. Mais qui le fait? Et qui est-ce qui surveille ça? Si on ne se donne pas les moyens d'éduquer la population et puis de faire des contrôles de vitesse, ça va servir à rien. Autre chose, il est interdit de brûler ses déchets verts. Alors en ville, ce n'est pas trop un problème. Hein. Mais en périphérie, qui le sait? Et qui le fait? On se promène, on voit les déchets verts sont toujours brûlés. Or, c'est une source de particules fines et éventuellement d'autres choses. Parce que quand on brûle du bois, il y a plein d'autres composés aussi qui se dégagent. Donc, c'est bien d'avoir... c'est un guide, mais il faut mettre en pratique.
Ouais, donc, un objectif, les moyens pour vérifier que les personnes respectent justement les alertes, les consignes. Et puis... En termes d'alternatives, est-ce que tu penses que dans 30 ans, par exemple, la circulation sur les quais là, qui longent la Seine pourraient être remplacées en partie par des circulations, je ne sais pas, sur la Seine.
Ça, ça serait super sympa.
Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait
rêver. Ça serait rendre vivant
rêver,
le fleuve. Voilà. Je n'ai pas tout suivi, hein. Mais rendre vivant le fleuve, ça serait vraiment, ça serait vraiment très, très sympa. Est-ce que ça peut remplacer la circulation? J'en sais rien. Par contre, il faut la diminuer, la circulation, par un moyen ou un autre. Et alors là, il y a un tas de choses qui sont extrêmement intéressantes que j'ai apprises cet automne. C'est que si on ferme une voie, et alors on a eu une fermeture expérimentale quand on a fermé le pont Mathilde,
parce qu'on ne pouvait plus
faire autrement, il n'était plus accessible à la circulation, eh bien il y a ce qu'on appelle l'évaporation du trafic. C'est-à-dire que d'abord les gens se débrouillent, les gens quittent leur voiture pour prendre un autre moyen de transport ou un autre chemin, et quand on rouvre la voie, eh bien il n'y a pas autant de voitures qu'avant. Et en revanche, quand on crée une voie, eh bien, elle est vite engorgée.
Les gens s'engouffrent dedans.
Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre.
Et ça veut dire que les populations ont une véritable capacité d'adaptation.
Alors ça, c'est extraordinaire.
Et que c'est vrai qu'on pourrait, on peut parfois entendre des élus à la télé sur différents sujets, oui, mais les populations ne sont pas prêtes ou des choses comme ça. Et finalement, peut-être que les gens sont prêts à plus de choses qu'on ne croit.
Sans même forcément le savoir, mais confrontés à un problème, ils vont trouver une solution. C'est vraiment extraordinaire. Il ne faut, faut pas être pessimiste tout le temps. Après, il y avait un autre versant, je crois, à ta question, et c'était 2050, comment est-ce que la cité s'adapte? Il faut absolument favoriser les espaces verts. Et il faut lutter contre les îlots de chaleur. Et donc, il y a tout un aménagement architectural qui se dénomme les trames vertes et bleues. Et c'est extrêmement important.
Donc, ces trames vertes et bleues qui sont des continuités vertes d'espaces verts, d'espaces de nature, et les trames bleues, des circulations aquatiques.
Et qui vont rafraîchir. Parce que pourquoi est-ce que les villes sont exposées? C'est parce qu'elles accumulent la chaleur et qu'il y a donc ces fameux îlots de chaleur. Donc ici, on entend les oiseaux chanter.
Vent dans les feuilles d'arbres.
Autre bénéfice, eh bien, c'est on essaye de maintenir une petite biodiversité qui est extrêmement malmenée. Et puis, ça a un côté qui est bien démontré maintenant, comme avoir des vertus d'ordre psychologique. On se sent mieux dans un espace vert, on vit mieux sa ville quand elle a des cheminements verts et des parcs. Et celui-là, il est tout petit.
Il est vraiment tout petit.
C'est un écran. Il n'y a pas de continuité. Le plus proche, à ma connaissance, ça va être le jardin de l'hôtel de ville au nord. Je ne sais pas. Et après, les aménagements, mais je ne sais pas s'ils sont très, très arborés sur les bords de Seine.
Et tu penses qu'à la fois la prise de conscience des citoyens de ces enjeux de préserver ces espaces de nature en ville, la prise de conscience est suffisamment répandue chez la population et les décideurs, les pouvoirs publics en général, pour que en 2050, on l'a dit, la démographie urbaine va encore augmenter. Donc des espaces comme ça, en termes de valeur potentiellement immobilière, va être énorme. Est-ce qu'on sera capable de faire ce lobbying?
Alors là, moi, j'ai qu'une solution. Il faut faire pression sur les élus. Il faut discuter avec les élus et ceux qui décident en général. J'ai pas de solution. Je vois pas autre chose à proposer. Il faut qu'ils soient conscients de ces enjeux-là. Il faut que la population aille leur dire ce qu'ils veulent. Il y a aussi des gens dont c'est la profession d'aménager, les urbanistes, les architectes,
je pense qu'ils
les paysagistes.
De plus en plus la conscience de ces questions.
Il y en a plein qui bossent là-dessus. Il faut les encourager, j'espère. Là encore, il faut essayer d'être optimiste, hein, parce que sinon, on n'est pas bien.
En fait, il y a un double mouvement à la fois optimiste sur les prises de conscience que tu sembles avoir, qui vont se diffuser, qui vont permettre que les arbitrages à mener soient les bons. Et en même temps, pas du pessimisme, mais un réalisme de dire, même si on changeait nos modes de vie dès demain, l'inertie en fait des polluants, etc., est telle qu'en 2050, on est sûr que les choses ne seront pas réglées.
Ça ne sera pas terminé, en tout cas, ça c'est sûr.
Pour conclure notre conversation, Catherine, tu te dois de formuler un vœu.
Mais c'est que je n'ai pas qu'un seul vœu. J'en ai énormément. Dans la thématique qu'on devait traiter, c'était quand même pollution de l'air, Je n'ai pas précisé pollution de l'air d'origine anthropique,
oui.
C'est-à-dire liée à l'homme, liée on est à d'accord. Hein, mm-hmm. Parce que par exemple, il y avait récemment un volcan à Hawaï, mm-hmm. qui débarquait énormément de polluants. Et je sais que dans un journal américain respiratoire, il y a eu un petit encart pour les patients. À quoi ils devaient s'attendre lorsque le volcan déversait ses poussières. Et autre chose, les feux de forêt qui vont être probablement beaucoup plus fréquents avec le réchauffement climatique vont être source d'une pollution. Mm-hmm. Bon, donc ça, c'était pas notre sujet aujourd'hui. Si on reste dans la pollution qui est liée à l'activité humaine, je voudrais qu'on fasse tout, c'est mon vœu le plus cher, pour que l'air que l'on respire soit respirable. Mm-hmm. Une autre façon de le dire, c'est que nous avons tous le droit à l'eau potable,
oui.
En tout cas en Europe. Mm-hmm. Eh bien, il faudrait qu'on ait un air potable.
Mm-hmm.
Ouais. Voilà. Ça, c'est le point capital. Il faudrait agir pour qu'on ait tous accès à un air potable, ce qui n'est pas actuellement le cas des gens qui habitent à côté d'une zone de grand trafic,
ouais,
puisque c'est là qu'on mesure les plus grandes concentrations, essentiellement de NO2.
Mmh. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le point principal.
Donc, c'est un droit.
Et puis, c'est mon vœu vraiment en lien avec le thème qu'on traitait. Après, on a parlé des espaces verts. Mmh. Donc, on a parlé de la nature. On a tout à l'heure évoqué la biodiversité. Moi, c'est un vœu accessoire dans notre conversation, mais moi, j'aimerais bien que tous les enfants sachent ce que c'est que la terre et faire pousser des fruits, des légumes, des fleurs. Parce que je me dis que quand on habite dans un immeuble, grande concentration, les enfants ne savent pas ce que c'est.
Ouais,
et donc, mettre la main dans la terre et regarder pousser les graines qu'on a semées, je crois que c'est extrêmement important.
Eh bien, de l'air et de la terre.
Voilà.
Pour 2050.
Et de l'eau, puisqu'il faut rafraîchir.
Exactement. Hein, on revient aux éléments. Ben, merci beaucoup.
Merci à toi, Rebecca. C'est toujours intéressant.
Ben oui, c'est très agréable.
Je vais faire un autre commentaire.
Oui.
C'est que dans la diffusion de l'information, mm-hmm. Tout le travail des journalistes, mm-hmm. et tout ce qui est communication ou pédagogie, c'est la même chose, c'est extrêmement important.
Mm-hmm.
Donc merci de s'intéresser à ces sujets-là.
Merci à toi.
Dans le descriptif de l'épisode, je vous ai glissé le lien vers la page du site web de l'Organisation mondiale de la santé consacrée aux polluants atmosphériques, un bon point de départ pour mieux cerner ce qui nous attend. Une autre info, qui n'a rien à voir, pour la première fois, telle que vous m'entendez là, je suis à Madrid. Enfin ou déjà, tout a semblé si long et tout a été si rapide à la fois. Bref, à Madrid, dans mon nouveau chez moi. Entendez-vous ma joie, ce sourire un peu plus large qu'à l'accoutumée? Et quitte à être heureuse, vous pouvez, vous aussi, m'ajouter un supplément de bonheur en parlant du podcast autour de vous. Sur les réseaux sociaux, sur iTunes, avec des étoiles et des commentaires, sur Facebook, Instagram, et même, soyons fous, dans la vraie vie, autour d'un café ou d'un bon repas avec vos proches. Sur ce, on se retrouve en août pour une nouvelle rencontre, une nouvelle conversation. D'ici là, soyons toujours curieux.